bonjour à notre cher et passionné public et merci d'assister à cette table ronde au sujet évocateur et finalement pas si loin de l'actualité, le temps des croisades. Au temps des croisades, et c'est un sujet qui visiblement passionne pas mal d'amateurs d'histoire et puis aussi un certain nombre de spécialistes du roman, en tout cas trois intervenants. Jean-Sébastien Blanc, tout d'abord, ensuite Paul Dodin le Claveau, pardon, et David Camus, journaliste, si je me rappelle bien, si je consulte bien mes petites fiches, pour l'un d'entre vous, éditeur pour l'autre, et en particulier pour les éditions Alzaban, c'est ça, voilà, je prononce bien. Et puis David Camus, vous êtes le mauvais génie de cette table ronde, c'est-à-dire le romancier, uniquement romancier, bien que vous ayez mal commencé, puisque vous avez travaillé dans l'édition, si ma mémoire est bonne, et que quelque part, entre ceux qui ont d'abord travaillé dans l'édition et ceux qui continuent à travailler dans l'édition et vont même jusqu'à créer une maison d'édition, on va voir que nos passionnés d'histoire et de croisade sont parfois à l'intersection de plusieurs métiers de la littérature. Alors la première chose, et bien sûr la quatrième qui n'était pas prévue, c'est aussi le plaisir, le bonheur et le charme de la modération, c'est quand le quatrième auteur vous arrive, que vous n'avez pas eu le temps de consulter quoi que ce soit, vous ne le connaissez pas, bien sûr que si. C'est une chance, Justine Niogré, donc auteur de romans de fantasy, auteur tout simplement, romancière tout simplement. Et excusez du peu, c'est pour ça que tout le monde la déteste. Elle a, dès son premier roman, porté à la fois le prix Imaginal de fantasy, du meilleur roman de fantasy pour un premier roman. Ça n'est pas mal, et le grand prix Imaginaire. Voilà, c'est une façon. Et le deuxième roman a eu, là aussi, un prix littéraire important. Donc,
elle est super pénible.
Voilà, elle se fera une raison, mais néanmoins, ça explique pourquoi elle a pu se rajouter. Et c'est vrai que ces personnages principaux, ces personnages peu brutaux et héroïques, finalement, sont tout à fait dans le ton des croisades. Elle nous en dira d'ailleurs un petit mot. Voilà, peut-être qu'on peut commencer par Jean-Sébastien Blanc, se poser la question, qu'est-ce qui peut amener un éditeur et aussi auteur à se plonger plus d'un millier d'années après, en 1096, c'est-à-dire la croisade bien connue. On est à l'époque de Saladin ou un peu avant?
Alors, dans le premier tome, puisque c'est un roman en deux tomes, on est donc en 1096. Saladin, c'est à peu près...
1100.
Oui, c'est ça, c'est un peu plus tard.
1187.
Oula,
un siècle plus tard. Donc, par un petit artifice de romancier, j'ai réussi à faire traverser un peu le temps à mon personnage. Juste alors un petit préambule, je m'excuse de ne pas être très très long malheureusement sur cette table ronde parce que malheureusement le stand ne peut pas être tenu et je vais être obligé de le rejoindre plus rapidement que prévu. Voilà, je vais juste vous prévenir. Pour répondre à votre question, qu'est-ce qui donne envie à un éditeur ou à un romancier jeunesse de partir en croisade? C'est le voyage. Il faut se mettre à la place des gens qui sont partis en croisade en 1096 et bien avant. Et qui ont, avant même de penser à faire la guerre, ont pensé à ce voyage qui devait en durer, un voyage qui a duré près de, je dirais peut-être une bêtise, un an et demi, fait pour certains d'aventures meurtrières, fait de combats, fait de traversées du désert, fait de choses absolument inimaginables au moment de leur départ. Et l'idée en fait de ce roman, c'était pas tellement de raconter la guerre en elle-même. Beaucoup d'historiens le font très bien, même pour la jeunesse, mais c'était plutôt de raconter un voyage par un jeune paysan du XIe siècle qui ne connaissait rien d'autre que son village, que sa région, que sa famille dans ce village, et qui doit faire un grand saut dans la géographie, qui doit traverser des milliers de kilomètres à pied, à cheval, pour atteindre une ville mythique, extraordinaire, mais dont lui-même a très peu entendu parler, Jérusalem. Et pour un romancier jeunesse, c'est vraiment, je pense, porteur d'énormément d'imagination, de fantastique. Quand on ajoute à ça l'imaginaire du Moyen-Âge avec le bestiaire, avec les légendes qui circulaient déjà à l'époque, on a, j'ai envie de dire, presque sur un plateau d'argent, une histoire qui se présente.
D'accord. Paul Dodin Claveau, le 16e anneau du serpent, un roman de roman. Et vous aussi, vous nous plongez au milieu des croisades?
Oui, alors c'est un des aspects du 16e anneau, puisque c'est, on est dans le 16e anneau sur trois histoires. Il y en a une qui effectivement concerne la première croisade avec Godefroy de Bouillon, et une autre qui se passe en Inde dans le Kerala à l'époque du Christ, et la troisième qui se passe aujourd'hui, puisque le fil conducteur de tout cela, c'est un moine iconographe, un ermite qui vit dans le sud de la France et qui part à la recherche d'un ami qui a disparu à Jérusalem et qui donc va se retrouver confronté à ces deux histoires. Alors pourquoi à mon niveau la première croisade? Eh bien, l'histoire a commencé à germer dans ma tête en 92 quand j'ai fait un premier voyage à Jérusalem, et parallèlement aussi parce que j'ai une passion pour un lieu qui est le château de Bouillon, donc dans les Ardennes, près du duché du Luxembourg, et qui est un lieu absolument extraordinaire, dont est parti, c'est de là qu'est partie une des trois armées de la première croisade, sachant que les deux autres sont partis d'Italie et la troisième du sud de la France, en fait. Et Godefroy de Bouillon est un personnage absolument fascinant, dont on se demande vraiment pourquoi il est parti là-bas, si ce n'est parce que, évidemment, on dit qu'il avait été malade et que c'est donc pour remercier le Seigneur de sa guérison, mais j'ai l'impression, et c'est ce que j'essaye de dire dans le roman, qu'il y a peut-être une autre explication. Voilà.
Pourquoi mélanger des périodes différentes autour de ce thème de la croisade? Qu'est-ce qui vous a amené à balader vos personnages et donc à construire un roman autour de périodes quand même très différentes?
Alors, à la base, je suis donc journaliste de presse écrite et ensuite de télévision. Et je crois que ça a dû se passer à peu près en 1995. J'étais en train de faire mon jogging. Je pensais à un ami que je n'avais pas vu depuis très longtemps, un ami d'enfance. Je pensais en même temps à un autre ami qui est justement un carme iconographe. Et en même temps, je pensais à ce voyage que j'avais fait à Jérusalem quelques temps avant. Et tout s'est mélangé dans ma tête et je me suis dit, tiens, je vais essayer d'écrire un roman sur un moine iconographe qui part à la recherche d'un ami qui a disparu à Jérusalem. Et tout ça, ensuite, s'est mis en branle pour aboutir au 16e anneau du serpent.
On parle des dangers des croisades, mais visiblement, il y a aussi les dangers du jogging. David Camus, alors vous ne faites pas petit brin, vous vous lancez. Alors, vous avez commencé votre carrière quand même de fiction avec une nouvelle, La nuit des petits hommes verts. Malheureusement, on ne le trouve plus, c'est un texte épuisé et je ne suis pas sûr qu'il sera réédité si tôt. Mais c'était quand même une première démarche, et je le dis avec un peu d'humour et d'amitié, parce que j'ai eu le plaisir de publier cette nouvelle, qui n'est peut-être pas le chef-d'œuvre de la science-fiction qu'on espérait, mais c'était un mélange déjà historique. C'était déjà un petit sujet où...
Avec un ton décalé.
Voilà, un ton décalé. Alors là aussi, une croisade décalée qui mélange le fantastique, la fantaisie, peu importe les étiquettes, et l'histoire. Qu'est-ce qui vous a amené, David Camus, vous passionner d'abord pour l'histoire et ensuite pour la période des croisades? Là, on est 100 ans plus tard, comme on l'avait rectifié au début de notre intervention, Saladin, 1687, et ainsi de suite. David Camus.
Bonjour. La raison pour laquelle je me suis intéressé aux croisades, c'est qu'en fait, je cherchais à écrire un roman, j'avais très envie de traiter deux thèmes qui me tiennent à cœur, qui sont d'une part la religion, d'autre part la guerre. Et donc, je lisais, j'aime beaucoup l'histoire depuis toujours, je lisais à cette époque-là le livre de Marc Ferry sur... Ferry, l'histoire de France, et je suis arrivé sur la période des croisades à laquelle il consacre, sur un volume qui fait à peu près 800 pages, et la période des croisades à laquelle il consacre 3 pages. Ça m'est paru quand même très court pour un truc aussi fascinant, c'est-à-dire qu'à cette époque, au Moyen-Âge, donc encore une fois, fin du 11e jusqu'au début du 13e, on ne parcourt pas la moitié de son univers par hasard, pour des raisons futiles. Et j'ai voulu en savoir plus, et je suis tombé sur un épisode qui m'a fasciné et qui se trouve être le début du prétexte à mon roman, qui est donc la bataille la plus célèbre, le tournant en quelque sorte, si vous voulez, des croisades, qui est la bataille de Latin à Tignes en 1187, en juillet 87, avec Saladin. Saladin inflige une cuisante défaite aux armées des Francs, ainsi qu'aux Templiers, aux Hospitaliers. Et d'une part, il leur dérobe la vraie croix, c'est-à-dire la croix sur laquelle le Christ aurait été crucifié, qui est la principale relique de la chrétienté. Là, je vous parle de fait historique. Hein. Donc, cette croix, à partir du moment où elle est prise par Saladin en 1887, elle disparaît, on ne sait pas ce qu'elle devient. On sait qu'elle a fait l'objet de tractations un peu plus tard entre Saladin et Richard Cœur de Lion, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Et d'une part, donc, Saladin s'empare de la vraie croix, et d'autre part, il propose un marché aux Templiers et aux Hospitaliers qu'il a capturés. Il en a capturé à peu près 110, et il leur propose le marché suivant. Ou vous vous convertissez à l'islam, ou vous restez fidèle au Christ, et vous mourrez. Et historiquement, on sait que les 110 chevaliers du temple et de l'hôpital capturés par Saladin sont restés fidèles au Christ et donc ont tous été décapités. Et moi, je me suis dit, mais c'est quand même absolument inouï. Je veux dire, on est à l'époque des croisades, Saladin est sur le point de reprendre Jérusalem, il la reprendra 3 mois après la bataille de Hattin. Il n'est pas possible, statistiquement, il n'est pas possible que personne ne se soit mis en quête de cette vraie croix, surtout quand on sait qu'il y avait des gardiens de la vraie croix parmi les ordres saints. Et donc, j'ai imaginé qu'un homme, mon personnage principal, qui s'appelle Morgène, se voyait proposer le marché suivant, convertis-toi ou meurs, et lui acceptait de se convertir. Il se convertit donc à l'islam pour rester en vie, et rester en vie afin de repartir en quête de cette vraie croix qui est perdue. Et j'essaye d'intégrer, si vous voulez, dans mon récit, les raisons pour lesquelles, en fait, son récit ne nous est pas connu, pour lesquelles son récit ne nous parvient pas. Et non seulement ça, mais à côté, donc, comme tu vous le disiez, Stéphanie, on a l'histoire avec un grand H, j'ai envie de vous dire, et pour moi, il était hors de question de ne pas intégrer également les légendes et le merveilleux de l'époque, c'est-à-dire leur réalité à eux. Ce n'est pas à moi, homme du 21e siècle, de juger ces hommes-là. C'est-à-dire, j'essayais de restituer le monde, leur monde, tel qu'ils pouvaient le vivre à travers leurs yeux, et notamment à travers les fictions de l'époque. J'aime beaucoup Chrétien III, qui est d'ailleurs l'un des personnages de mes romans. Et donc, c'est cet ensemble, cette réalité-là que j'ai voulu rendre, c'est-à-dire la réalité historique et la réalité de leur univers à travers les fictions de leur univers.
Quatrième mousquetaire de notre table ronde, Justine Liogret, vous déclariez, Justine, dans une interview, mon kiff, c'est de tirer l'arbalète. Alors, ça dit beaucoup de choses, j'imagine, sur votre passion du Moyen-Âge, mais en quoi les croisades sont une période et un thème qui vous intéresse?
C'est surtout comme le disait David, c'est vraiment une période absolument immonde de l'histoire. Et j'aime vraiment écrire sur l'humain quand il est poussé à bout, quand il est poussé dans ses retranchements. Et les premières croisades, en tout cas, ont vraiment été des moments extrêmement repoussants.
Ils ont mangé de la chair humaine.
Comme disait Bertrand Brecht, l'homme est-il bon, l'homme est bon, mais le beau est meilleur.
Petit extrait. Donc, la légende véritable du roi d'Orient, le second voyage de Jean-Sébastien Blanc, donc paru aux éditions Alzaban. Autrefois, Guillaume avait pris la croix. Et comme bien d'autres fils de seigneurs et de barons, ils en étaient allés combattre les Sarrasins en Espagne, du côté des armées des rois de Castille et d'Aragon. Combien de ces païens avait-il pourfendu de son épée? Nul ne le sait. À son retour, on raconta qu'il avait vécu de cruelles aventures, dont je ne saurais vous dire ce qu'elles furent vraiment, car lui-même ne le raconta jamais. On dit d'ailleurs qu'il vécut aussi d'autres aventures et que ses conquêtes furent surtout quelques délicieuses sarrasines. Mais, depuis son retour sur les terres de Poule, Guillaume se morfondait, il se voyait vieillir sans épouse ni héritier. Il paraissait déjà 50 ans quand il n'était âgé que d'un peu plus de 40. L'homme ne manquait cependant ni de bravoure, ni d'habileté au combat. On le disait même fort que téméraire. Mais de ses qualités, il n'était point besoin en ces temps où une paix relative régnait sur les terres du comté de Toulouse. Alors, voilà, mise en scène d'un personnage. Pourquoi ce Guillaume a-t-il pris la croix et en quoi prendre la croix était un enjeu, sinon une évidence, pour les chevaliers de cette époque, Jean-Sébastien Blanc?
Alors, c'est une tellement vaste question que je me suis bien gardé d'essayer d'y répondre. J'ai plutôt essayé de me centrer sur un personnage, en essayant de bien le définir, de lui donner des contours, de lui donner une substance de personnages tels qu'on pouvait certainement en trouver à l'époque, dans des seigneuries un peu désolées ou un petit peu au fin fond de ce qui n'était pas encore la France. Et j'ai préféré imaginer juste un chevalier qui avait vécu, comme vous l'avez lu, déjà quelques aventures et qui était peut-être entre guillemets un petit peu en manque d'autres aventures, en manque de richesses, un manque de quelque chose qui fait qu'on se dit qu'on n'est pas venu sur Terre pour rien. Je ne sais pas, on peut imaginer quelque chose comme ça. J'ai un petit peu édulcoré un certain aspect qui a touché aussi les chevaliers, c'était aussi l'appétit de butin, tout simplement, de richesse, de promesses, de trésors à venir. Et j'ai préféré me centrer sur un personnage un peu flamboyant, enfin en tout cas qui voudrait être flamboyant et qui voudrait connaître une belle aventure. Après, quelles étaient les motivations de tous les chevaliers? Je crois qu'elles étaient en fait très diverses, hein, vraiment très nombreuses. Ça pouvait aller effectivement de l'envie de défendre entre guillemets le Christ, les lieux saints, ça pouvait être l'appétit de richesse, de butin, comme on disait tout à l'heure. Et puis aussi peut-être des raisons un peu mystiques pour certains, on ne sait pas. C'était quand même des milliers de personnages, hein, et peut-être il y avait quand même aussi beaucoup de diversité parmi eux. Voilà, donc là on a un chevalier qui s'appelle le chevalier Guillaume, qui en fait n'est pas le personnage central du livre, c'est son écuyer qui lui-même va devenir chevalier, et donc ce fameux roi d'Orient. Juste un tout petit mot pour terminer, parce que malheureusement je suis obligé de vous laisser un petit peu précocement. C'est une histoire qui s'inspire d'un autre personnage, dont je crois que mes acolytes ont certainement entendu parler, qui est le prêtre Jean. Cette fameuse légende du prêtre Jean, selon laquelle ce prêtre, ce monsieur, dont on ne sait pas vraiment s'il était prêtre ou pas, en tout cas c'est une invention, on sait que c'est une invention, ce monsieur aurait fondé quelque part en Orient, dans le dos des Sarrasins, comme on disait. Alors en Inde, pour certaines versions, on a parlé d'Afrique après, aussi.
Après.
Voilà, donc il y a eu plusieurs versions, il y a eu plusieurs hypothèses qui toutes ont visiblement été démenties. En tout cas, je me suis basé là-dessus, sur cette légende. Hein. Et peut-être ce personnage d'écuyer, Thierry Lehardy, fut-il ce prêtre Jean.
Là voilà, pour les jeunes lecteurs en tout cas.
Voilà. À partir de 12 ans.
12 ans, c'est encore très jeune lecteur pour nous, pardon. Merci.
Un royaume, le prêtre Jean. Voilà, tapez sur Internet, vous allez vraiment
trouver
une biographie absolument immense.
Petit extrait. Donc je rappelle le Paul Daudin-Claveau, le 16e anneau du serpent. L'aube se levait sur les rives de la Semois. Le vaste campement de toile blanche, planté au pied du donjon de Bouillon, était encore envahi par une brume de chaleur que la nuit n'était pas parvenue à rafraîchir. Il régnait là une telle effervescence. Écuyers et chevaliers achevaient les préparatifs du grand départ. Nul ne pourra jamais expliquer pourquoi, qu'ils soient riches ou pauvres, ils avaient répondu à l'appel de Clermont. Leur pape Urbain II avait-il lui-même imaginé une telle ferveur lorsque, le 27 novembre de l'an de grâce 1095, il avait prêché la croisade. Frères bien-aimés, poussés par les exigences de ce temps, moi, Urbain, portant par la permission de Dieu la tiare pontificale, pontife de toute la terre, suis venu ici vers vous, serviteur de Dieu, en tant que messager pour vous dévoiler l'ordre divin. Il nous faut apporter en toute hâte à nos frères d'Orient l'aide si souvent promise et d'une nécessité pressante. Les Turcs et les Arabes se sont avancés dans le territoire de la Roumanie jusqu'à cette partie de la Méditerranée que l'on appelle le bras de Saint-Georges, et pénétrant toujours plus avant dans le pays de ces chrétiens, les ont par 7 fois vaincus en bataille, en ont tué et fait captifs un grand nombre, ont détruit les églises et dévasté leur royaume. Si vous les laissez à présent sans résister, ils vont étendre leur vague plus largement sur beaucoup de fidèles serviteurs de Dieu. C'est pourquoi je vous prie et exhorte, les pauvres comme les riches, de vous hâter de chasser cette vilengeance des régions habitées par nos frères et d'apporter une aide aux adorateurs du Christ. C'est le Christ qui le commande. Ceux qui iront là-bas et qui perdront la vie pendant le voyage ou dans la bataille, leurs péchés leur seront remis. Que les guerriers se préparent et réunissent ce qui est nécessaire pour pourvoir à leurs dépenses. Quand l'hiver finira et que viendra le printemps, qu'ils s'ébranlent allègrement pour prendre la route sous la conduite du Seigneur. Comment on peut, nous, à une telle distance, imaginer cet engagement de pauvres et de chevaliers dans cette incroyable épopée, à la fois un peu folle, on l'a vu en termes de voyage, on n'est pas à l'époque des avions et des TGV, et puis pleine de risques, pleine de dangers, pleine d'incertitudes et pleine de batailles à venir, parfois aussi de butins. Peut-être que le sentiment n'était pas uniquement la noblesse et l'amour de Dieu. Et comment cette conception aussi de la croisade dans un affrontement, est-ce que c'est ça qui vous a intéressé,
qu'est-ce qui vous a vraiment plu dans ce thème de la croisade que vous avez mis, sinon au cœur du moins, dans votre roman?
Alors, si on veut une comparaison avec aujourd'hui, la croisade pour l'époque, c'est le voyage sur Mars. C'est-à-dire qu'on est à peu près sûr qu'on ne viendra pas. On s'installera sur place. Et donc, il faut un sacré culot pour le faire. Je ne suis pas sûr que tout le monde, parmi ceux qui ont été volontaires pour partir, en était conscient. Mais il faut savoir qu'avant même qu'on ait la croisade, cette première croisade des barons, il y a d'abord une croisade qui va se faire sous la conduite de Bernard l'Ermite, qui est la croisade des pauvres, et à laquelle participent des gens qui vont uniquement parfois, qui n'y vont pas pour gagner des territoires, et qui sont conduits par un fanatique, hein, Pierre l'Ermite. Et puis alors quant aux autres, pourquoi ils partent? Évidemment, la plupart du temps parce que on a à peu près tout découvert en Europe, et donc on est en recherche d'aventures, de nouveaux territoires, on a envie de se battre aussi, on a envie d'en découdre. Et au milieu de tout ça, il y a un personnage qui va jouer un rôle fondamental dans cette première croisade, même si ce n'est pas le cas au départ, qui est Godefroy de Bouillon, qui s'est battu pendant des années pour faire reconnaître son héritage sur le duché de Bouillon, et qui, au moment même où il a obtenu justement de pouvoir bénéficier de cet héritage, eh bien, vend son château pour partir, ce qui est évidemment totalement inexplicable. Et c'est un personnage qui n'y va pas spécialement pour la gloire, puisque après la prise de Jérusalem, on va lui demander de devenir le roi de Jérusalem, ce qu'il va refuser. Il va accepter uniquement le titre d'avoué de Jérusalem, et justement dédier sa conquête à l'Église et non pas à son propre pouvoir, ce qui est assez surprenant. Bon, moi, c'est un personnage, c'est Bouillon qui m'a fasciné dans cette histoire de croisade, c'est tout ce qu'il a rencontré. Il y a plein d'anecdotes sur la vie de Bouillon pendant la croisade. Il y a ce moment un peu crucial de la croisade où il s'est retrouvé aux prises avec un ours, où il a failli mourir parce qu'il a été, en voulant secourir, je crois, un pèlerin, il s'est battu contre un ours qu'il a fini par haussir. Mais enfin, il a été terriblement affaibli pendant des semaines, ce qui d'ailleurs fait qu'il y a eu un passage à vide de la croisade jusqu'à ce qu'il se retrouve en pleine santé. Et après la prise d'Antioche, un certain nombre de seigneurs qui participaient à la croisade étaient prêts à repartir. Ils pensaient qu'ils avaient fait ce qu'il fallait. Et c'est lui qui va recréer, avec l'aide aussi du petit peuple, qui lui a envie d'aller jusqu'à Jérusalem, c'est lui qui va recréer l'unité. Et il faut savoir quand même, pour conclure sur ce point, qu'ils sont au total, donc je vous dis, il y a trois armées, il y a 150 000 personnes qui partent, et il y a seulement un dixième qui verra Jérusalem.
Bien sûr. Oui, des petites anecdotes quand même sur Godefroy de Bouillon, qui est effectivement un personnage tout à fait étonnant. On racontait qu'il était si fort qu'il était capable d'assommer un cheval d'un seul coup de poing. Et pour ce qui est de la couronne, effectivement, il a refusé le titre de roi de Jérusalem, disant qu'il refusait de porter une couronne là où le Christ n'avait porté qu'une couronne d'épines. Donc il prenait effectivement le titre d'avoué de ses cultes. Il meurt d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, je crois, en 1101, enfin peu de temps après. Donc,
un an et demi à peu près.
Oui, au milieu de fonction.
Alors, petit commentaire à propos de sa mort, parce que ça, c'est quand même assez surprenant, c'est que c'est un personnage qui a été tellement admiré par ses ennemis. D'abord, c'est eux qui ont raconté le fait qu'à un moment donné, il y avait un cavalier musulman qui était face à Godefroy de Bouillon, et il a coupé le cavalier, ce qui fait que le cheval a continué avec les jambes. Et ça, c'est un chroniqueur arabe qui le raconte. Et après la mort de Godefroy de Bouillon, qui serait mort, soi-disant, d'un fruit qu'il aurait mangé et qui était empoisonné, ses ennemis l'admiraient tellement qu'ils n'ont pas voulu croire qu'il était mort comme ça. Et ils ont inventé un récit comme quoi il serait mort pendant un autre siège, en fait.
Autre petit extrait, donc le premier roman de cette trilogie qui s'appelle David Camus, le roman de la croix, et le cœur de la croix. Le ciel se gagne là, ici-bas, et c'est ici-bas qu'il nous faut agir. D'ailleurs, n'oubliez pas que les rois ont perdu la vraie croix. Nous sommes innocents de ce crime. Depuis le début, nous n'avons cessé de dire que nous n'aimons pas le voir exposé ainsi au risque des armes. Pourtant, les rois n'ont cessé de l'utiliser pour leur propre bénéfice, sans tenir compte des périls encourus. Il n'y a pas si longtemps, peu avant la Noël de l'an de grâce 1182, Baudouin IV lui-même s'en est allé saccager la région de Damas en portant la vraie croix avec lui. Est-ce à cela
qu'elle était destinée. L'archevêque de Tyr, Guillaume, mon maître, se trouvait en compagnie du roi, répondit Josias. Il portait la vraie croix, escorté de quelques-uns des meilleurs chevaliers du temple et de l'hôpital. Vous savez, Josias, à quel point nous aimions Guillaume, mais dans cette affaire, il a porté la Sainte Croix pour un roi, et non pour Dieu. La croix n'a rien à faire sur un champ de bataille. Sa place est dans une église. D'ailleurs, aucun roi ne devrait gouverner en Palestine, comme l'a si bien écrit notre vénéré prédécesseur Alexandre III dans une bulle adressée en 1181 à toute la chrétienté à propos du petit roi lépreux. Il n'y a pas de roi qui puisse gouverner cette terre. Baudouin, par exemple, qui tient les rênes du gouvernement, se trouve gravement flagellé par le juste châtiment de Dieu, au point qu'il a peine à supporter les continuels tourments de son propre corps. Dieu lui-même n'a cessé de nous avertir. La lèpre de Baudouin était un signe, la perte du comté d'Édesse en était un premier, la prise de la vraie croix sera sans doute le dernier. Josias ne fit aucun commentaire, mais cessa de regarder l'évêque de Prenesse, auquel il ne supportait plus de s'adresser. La lèpre qui avait affecté le petit roi Baudouin IV tout au long de son règne n'avait jamais été comprise en Occident. Alors qu'en Orient, c'était une simple maladie que Guillaume avait cherché à guérir, au Vatican, elle avait été considérée comme une manifestation de la volonté divine, la preuve que le règne de Baudouin n'était pas apprécié de Dieu, la preuve qu'aucune autre juridiction que celle de l'Église ne serait jamais approuvée par le ciel à Jérusalem. Baudouin IV avait pourtant été le meilleur de tous les rois de Jérusalem. C'est vrai, ce point-là, c'est fiction, l'histoire, David Camus?
Non, là, c'est historique. J'ai envie de dire, en fait, tout est historique. Hein. Il n'y a pas de... Oui, il y a quand même de la fiction dans le livre, mais la fiction, c'est-à-dire mon travail d'invention et l'histoire, sont mêlés de telle manière que, à plusieurs occasions, en pensant avoir inventé, je découvrais au fur et à mesure de ma documentation qu'en fait, il n'en était rien. C'est-à-dire que, je sais qu'à un moment donné, j'avais inventé une scène où les Templiers, certains Templiers, parce qu'ils avaient perdu la vraie croix, arrachaient la croix rouge de leur vêtement blanc en signe de malheur. L'affliction, moi, je me suis rendu compte que ça s'était vraiment produit. Bon, d'autres exemples comme ça sont arrivés, et je sais que, au fur et à mesure des romans, il m'est arrivé de penser que Morgène avait vraiment, vraiment existé, et qu'on ne connaissait pas son histoire parce qu'elle était tellement... impie, etc., qu'il ne fallait pas qu'elle soit portée à notre connaissance et que mon destin était de la révéler. Voilà. Et Baudouin IV est un roi très touchant, cela dit, moi j'adorais son père également, qui est Amaury. Baudouin IV est le roi peut-être un des Godefroy de Bouillon le plus connu de la chrétienté. C'est lui dont on peut voir l'histoire dans Kingdom of Heaven, le film de Ridley Scott, qui d'ailleurs est, je dirais, tout à fait contemporain de l'action de mon roman. Mais moi je suis très très attaché au père de Baudouin, Amaury, qui était bègue, qui était un gros homme, et qui avait réussi à établir un protectorat franc sur l'Égypte. Qu'il l'a perdu pour des raisons un peu idiotes suite à une mésentente avec l'ordre de l'hôpital.
David Camus, une question que je me posais tout à l'heure, vous racontiez la scène où Saladin, au départ du livre, exécute 150 prisonniers francs. Et vous imaginez que Morgène, votre héros, celui qui va porter un peu toute l'histoire, lui va se convertir à l'islam pour sauver sa tête, et il fallait un personnage, donc c'est l'idée que vous avez trouvée. Est-ce que c'est là aussi historique, ces 150 exécutions? Parce que Saladin a quand même la réputation d'être plutôt, dans le contexte de l'époque, où la violence est quand même importante, un combattant chevaleresque, respectant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Saladin est un personnage extraordinaire. Je me souviens d'une le premier éditeur avec lequel j'ai travaillé sur mon roman, m'avait adressé une critique à propos de Saladin. Il m'avait dit, écoute, je ne comprends pas très bien avec Saladin parce qu'il est très cruel et très généreux, je voudrais savoir lequel des deux il est. J'ai dit, c'est précisément ça, c'est quelqu'un de très cruel et de très généreux, il est les deux. Ça peut paraître contradictoire, mais au fond, il ne faut pas y voir de contradiction, il était les deux. Et je dis toujours, Saladin était aussi cruel que les autres, ce qui veut dire particulièrement cruel, et avait des accès de générosité que les autres n'avaient pas. Un petit exemple, moi, qui m'avait beaucoup frappé, il y a à Versailles aujourd'hui une rue qui s'appelle la rue Saladin. Ça paraît quand même assez bizarre de voir cette rue Saladin, le passage Saladin, je ne sais plus, à Versailles. Et j'entends un jour, ça m'a toujours intrigué, je me suis toujours demandé pourquoi il y avait à Versailles un passage ou une rue Saladin. Et un jour, j'entends à la radio, il y a, je ne sais plus, 10 ans de ça, l'interview d'un garçon, un jeune Versaillais, qui doit avoir une vingtaine d'années à l'époque, donc il doit avoir 30 ans maintenant, et qui s'appelle Saladin quelque chose, et un nom, tout ce qui est plus français, avec des particules partout. Et on lui demande pourquoi il s'appelle Saladin, et il dit, Saladin est mon premier prénom, mais mes amis m'appellent Guillaume, c'est mon deuxième prénom. Mais dans ma famille, j'avais un ancêtre qui, à l'époque des croisades, était désargenté, était un noble, et est allé en Terre Sainte, et a été fait prisonnier par Saladin. Et Saladin l'a fait prisonnier, c'était un noble, il lui a demandé une certaine rançon en échange de sa liberté, comme ça se faisait pour les nobles à l'époque, et cet homme étant désargenté, il n'avait pas de quoi payer sa rançon. Et cela dit, comme il avait fait le voyage, il était donc condamné à rester en Terre Sainte, mais il était très très malheureux, et il a demandé une faveur à Saladin. Il lui a dit, Seigneur, est-ce que vous me permettez de retourner en France, l'équivalent de France aujourd'hui, je ne sais pas si c'est originaire de Provence ou autre, pour aller saluer ma femme et mes enfants, et je vous promets, je vous donne ma parole, je reviendrai. Et Saladin lui dit, tu me donnes ta parole, tu es un homme d'honneur, je te fais confiance, tu peux repartir en France. Et donc l'homme refait le voyage, il retourne en France. Là, il salue sa femme, il salue ses enfants, et tout le monde lui dit, mais écoute, reste avec nous, Saladin ne va pas venir te chercher. Il dit, non, j'ai promis, je dois repartir. Et on lui dit, mais tu as promis, enfin, une promesse faite à un démon sarrasin, ça n'est rien, nous, on va te délier de ta promesse, un prêtre va venir te délier de ta promesse, ne t'inquiète pas, tu seras sauf. Il dit, non, j'ai donné ma parole, je retournerai en Orient. Et donc, il refait le voyage encore une fois pour revenir voir Saladin, et Saladin, le voyant arriver, est quand même surpris. Et il lui dit, tu es vraiment un homme d'honneur, je te remercie, je te rends ta liberté, tu peux repartir chez toi et tiens, je te donne un coffret avec des bijoux, etc. Et donc l'homme est reparti en France, et pour remercier Saladin et que pour que sa famille n'oublie jamais ce geste, il a dit, dorénavant, chaque aîné de mes enfants portera le prénom de Saladin. Et donc apparemment, ça, c'est toujours le cas.
Très belle histoire qu'on dirait presque à l'auteur dans un roman de fiction. Elle est un peu poussée quand même, mais c'est une belle histoire. Et qu'est-ce que vous inspire, vous, Justine Niogré, toutes ces histoires de croisades, ces histoires d'hommes, de mecs, de vrais?
C'est... justement, enfin, je me fais renvoyer dans les cordes par David Camus, mais il y a des chroniques où il y aurait eu, voilà, aussi bien du côté chrétien que du côté musulman, il y aurait eu un groupe de chevaliers féminins. Et d'ailleurs, les musulmans auraient été très très choqués, puisque évidemment, après, une fois que les chevaliers étaient tués, couchés dans leur sang, etc., on allait récupérer les morceaux d'armure, les armes, etc. Et voilà, ils auraient enlevé des armures et trouvé des paires de seins, des choses comme ça. Et ça les aurait vraiment, vraiment choqués. D'autant plus que culturellement, ils n'auraient jamais fait combattre des femmes. Et les chrétiens seraient passés pour d'immondes lâches qui font cogner leurs femmes, etc.
Camus, est-ce que vous avez entendu cette histoire? Est-ce que c'est une des nombreuses légendes qui courent, comme le prêtre Jean, comme...
Non, mais la légende du prêtre Jean est fascinante, cela dit, c'est quand même plus documenté qu'on ne pense, en tout cas pour les origines, c'est-à-dire que la première lettre, si ma mémoire est bonne, il ne faut pas m'en vouloir, parce que ce sont des romans sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, il y a quand même une dizaine d'années. Mais la première lettre daterait de 1147, à l'époque où le Basileus Constantin de Constantinople donc, reçoit une lettre. Et en fait, il s'agit tout simplement de lui faire approuver son trône. Mais c'est vrai que l'idée, soi-disant, c'était... de l'humilier, de lui montrer que d'autres étaient plus puissants que lui, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'on a gardé l'idée d'un royaume quelque part chrétien, donc en Inde, et qui aurait permis de prendre les musulmans comme ça en tenaille. Alors ensuite, bon, à partir du moment où le royaume chrétien de Jérusalem s'effondre, et ça commence à s'effondrer en 1187, à partir du moment où Jérusalem rebascule du côté musulman, on a tendance à remettre le... Il faut bien, c'est comme si l'imaginaire, si vous voulez, à partir du moment où la réalité empêche un lieu imaginaire d'être dans un endroit, on le place ailleurs. En l'occurrence, bah, dans ces cas-là, le royaume du prêtre Jean se déplace de l'Asie avec l'Inde pour l'Afrique, avec l'Éthiopie notamment. Et c'est vrai que l'Éthiopie était un royaume chrétien, comme vous le savez sans doute.
Une question que je me pose, évidemment on parle d'affrontements, de violences, de chocs des civilisations, pour reprendre une vieille ancienne un peu polémique aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a donné justement cette rencontre de civilisations qui à la fois avaient les mêmes valeurs guerrières, hein, fondamentalement, qui affrontaient deux monothéismes, mais qui quand même étaient des sociétés, des civilisations assez différentes? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a intéressé, qui vous a posé débat, et qui quelque part se trouve dans votre livre, parmi...
Oui, alors justement, à ce propos-là, j'ai commencé à travailler sur mon livre, c'est vraiment un travail de longue haleine, j'ai commencé à travailler sur mon livre en 2001, avant le 11 septembre. Et je me souviens, alors le 11 septembre, comme vous vous souvenez tous, j'en suis persuadé, c'était un mardi. Et le dimanche, je travaillais encore sur ma documentation à propos des croisades, et je lisais tous ces massacres, et je me disais... quelle horreur, on n'a pas fini de le payer. Et c'est rigolo, enfin rigolo, vous en parlez, parce que deux jours après, il y avait le septembre, sur les croisés et autres, mais je me disais vraiment ça, quelle horreur, on n'a pas fini de le payer.
Alors moi, en ce qui concerne la première croisade, c'est le premier point de contact, évidemment. C'est, après, il y en aura un certain nombre, il y a des échanges qui vont se développer, mais le premier point de contact, il est d'une incroyable barbarie. C'est-à-dire qu'à Jérusalem, quand les croisés prennent Jérusalem, ils se défoulent. Ils se défoulent non seulement sur les musulmans, mais ils se défoulent aussi parce que comment reconnaître un musulman d'un juif ou d'un chrétien qui est dans la ville? C'est-à-dire que c'est un incroyable massacre. Et les, ceux qui se réfugient, qui croient trouver refuge sur l'esplanade des mosquées, dans les mosquées, sont également massacrés. Et pendant ce temps, en fait, le duc de Bouillon, je reviens à lui, eh bien, va se réfugier dans l'église du Saint-Sépulcre et va prier, mais ne va pas arrêter les massacres comme il l'avait fait parfois. Et alors, je voulais juste ajouter quelque chose. Alors, ça m'a beaucoup intéressé, cette histoire du prêtre Jean, parce que dans le 16e anneau du serpent, on crée un lien, en fait, entre, justement, l'Inde du Sud, le Kerala et le christianisme, et la naissance du christianisme. Et c'est assez marrant, parce que quand je travaillais donc sur ce projet, moi, j'avais imaginé un saint Thomas. Parce qu'en fait, dans l'évangile de saint Thomas, il y a beaucoup d'influences, des religions indiennes, on va dire. Il y a énormément d'influences. Et donc, moi, j'avais imaginé dans l'histoire un Thomas qui venait de l'Inde et qui rencontre ensuite après le Christ et qui aurait eu une influence sur le Christ. Et assez curieusement, quand j'ai commencé à faire des recherches, je me suis rendu compte que, et c'est parfois la magie d'écriture, qu'en fait le lien, il existait, en tout cas historiquement, puisque au niveau de la légende, on dit que saint Thomas aurait été le premier évangélisateur de l'Inde, et notamment du Kerala, où se passe d'ailleurs l'action du 16e anneau. Et je crois d'ailleurs que plusieurs siècles après, il y a un jésuite, me semble-t-il, qui a été envoyé là-bas pour remettre un peu de l'ordre dans tout ça, parce que cette communauté chrétienne du Kerala s'était développée de façon indépendante. Et on a un peu partout d'ailleurs dans cette région du monde des souvenirs de saint Thomas, notamment à Ceylan, où il y a sur une montagne une empreinte dont on dit que ce serait celle de l'apôtre Thomas. Enfin, il y a un peu tout ça, et le personnage de saint Thomas est aussi un personnage très intéressant.
Oui, il y a des empreintes un peu partout, c'est vrai, y compris à Jérusalem. Ce qui est marrant, c'est que je crois que c'est par Urbain III, peut-être, mais je ne suis plus très sûr, enfin, seconde moitié du XIIe siècle, le pape a entendu quand même, le pape du Vatican, il a entendu parler du prêtre Saint-Jean, là. Du prêtre roi Jean, pardon, envoie un ambassadeur. C'est toujours marrant de voir à quel point, si vous voulez, l'imaginaire peut avoir des répercussions dans le réel, que cette figure soit mythique ou non, peu importe, j'ai envie de dire, un ambassadeur est nommé par le pape pour aller la rencontrer. Alors évidemment, quel est le voyage de l'ambassadeur, enfin, c'est une figure qui a inspiré beaucoup d'auteurs. Il y a Umberto Eco avec Baudolino qui en parle. Il y a évidemment le nom d'échappe, tout ça, tu le connais. La folie de Dieu aussi. Je veux dire, beaucoup d'auteurs se sont emparés comme ça de cette légende parce qu'elle est absolument fascinante.
Oui, Miguel Aguilera, un auteur espagnol traduit en France par le Diable Vauvert entre autres, et qui a en effet la folie de Dieu, qui reprend ce personnage, qui montre bien que les auteurs de fiction européens ont un peu ce background. Je voulais vous demander encore quelque chose, parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre table ronde, mais David Camus, vous êtes engagé dans une trilogie, c'est pas rien, documentation, travail, mais moi ce qui m'a frappé, c'est votre personnage, le Mort Jeune, qui est un personnage, certes on sait que sa conversion à l'islam est tacticienne, mais néanmoins, il va se retrouver quand même dans une situation d'ambiguïté. On a l'impression, dans votre roman, que ce personnage est un peu une sorte de synthèse, de syncrétisme d'une tradition catholique et d'une acceptation d'une partie, en tout cas, des convictions musulmanes. C'est un personnage ambigu.
C'est un personnage très ambigu, c'est un personnage en creux, il est très complexe. Il se convertit à l'islam, effectivement, probablement pour des raisons tacticiennes, comme vous le dites. Maintenant, c'est quelqu'un de droit. Et c'est-à-dire que, tactique ou pas, c'est pas le problème, il s'est converti et il agit comme un musulman. Alors l'inconvénient, c'est qu'il va être banni par les siens et jugé par les siens. On le voit, il y a une scène à un moment donné au Crac des Chevaliers où il est jugé par les hospitaliers qui le chassent en cours de leur ordre. Et il n'est pas accueilli pour autant, évidemment, par les musulmans qui ont compris qu'il avait un peu joué le jeu. Ce qui fait lui vraiment un personnage totalement à part. Et ça, c'était très très important. Et je pense que c'est une chose, effectivement, qu'on ressent bien dans le livre. C'est quelqu'un, j'ai envie de dire, on ne peut pas raconter l'histoire. Et c'est pour ça que ça m'amusait aussi dans le volume 2 et dans les suivants, de montrer Chrétien III s'emparant de cette figure, finalement, pour en créer le Perceval de son dernier roman, qui est un roman inachevé. En tout cas, enfin, inachevé par Chrétien III lui-même.
Justine, quand vous entendez ces auteurs qui ont travaillé, qui ont écrit des ouvrages, qui parlent des croisades, en quoi vous, qui êtes encore une fois une passionnée de Moyen-Âge, ça vous dit quelque chose ?
Je trouve ça très intéressant, parce qu'on n'a pas du tout le même rapport à l'histoire. Moi, c'est vraiment la toute petite histoire qui m'intéresse, c'est les gens sans nom, c'est les paysans, c'est la vie dans une masure à l'époque. Et c'est une documentation qui, évidemment, est guidée par les dates, les régnants, les événements qui ont pu se dérouler à ce moment-là. Mais je m'en sers que pour m'en éloigner au mieux. C'est vraiment... c'est plus l'esprit de l'époque qui m'intéresse. La culture qui a fait qu'on a pu arriver à certaines situations, certaines guerres, certains événements. Et comment on pouvait, évidemment... Si on met un moderne dans une histoire de croisade, ça ne peut pas fonctionner. Il faut faire l'effort de comprendre pourquoi. Il n'y a jamais enfin, c'était pas des fous furieux qui sont partis se battre pour le plaisir du sang. Même s'il y en avait, c'était des gens qui croyaient vraiment à ce qu'ils faisaient, soit que ce soit pour gagner des terres, pour gagner de l'argent, pour le pillage, pour Dieu, pour plein de choses. Ah ouais, ouais. Et c'est vraiment retrouver... autant qu'on puisse, un petit peu du goût de cette époque.
Vous, David Camus, vous avez visiblement aussi une fascination pour Salader, à 100%.
Ah mais j'ai l'impression, enfin, il y a deux personnages vraiment très très importants dans les trois livres. C'est bon, d'une part Morgène, qui est le personnage principal, mais Saladin qui est très présent dans les trois livres. C'est un personnage sur lequel je me suis beaucoup documenté, aussi bien côté chrétien que côté musulman. Je le trouve fabuleux. Sa prise de pouvoir en Égypte était tout sauf acquise. Son rapport à la guerre est très particulier. C'est presque, j'ai envie de dire, que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, si vous voulez, c'est de voir à quel point la violence peut l'emporter quand la majorité des gens, mais j'allais dire malheureusement des gens du peuple, ne la souhaitent pas, la guerre. Mais il suffit, j'ai toujours, la guerre arrive plus souvent que la paix pour nous en très simple, c'est que la paix, pour la vouloir, il faut être aux mains d'eux. La guerre, il suffit d'un pour que ça se produise plus souvent. Là-dessus, Saladin, j'ai envie de dire, est quelqu'un qui a fait la guerre beaucoup, c'est vrai, mais j'aurais tendance à dire aussi peu que possible. Et ça lui a valu d'ailleurs des problèmes, parce que très souvent, il appliquait des tactiques, mais qui en fait lui ont servi, c'est-à-dire qu'il laissait toujours la possibilité à ses adversaires de s'en sortir, d'être vivant. Et du coup, si vous voulez, quand il assiégeait une ville, les gens savaient, ce n'était pas qu'une légende, puisqu'il l'avait déjà montré plusieurs fois auparavant, les gens savaient que s'ils se rendaient, Saladin les gracierait. Alors, en gros, ils se rendaient. Alors que quand vous êtes assiégé et qu'on sait que si on rentre dans la ville, on va vous tuer, vous avez plutôt tendance à vous défendre quand même. Et je dirais, ce mélange de guerre et en même temps de pardon, de charité, mais mis effectivement en application par Saladin, ça lui a vraiment rendu sur le plan stratégique de très très bon service. Et si on prend par exemple la bataille de Hattin, il y a un épisode au début de la guerre où il est dans sa tente et il reçoit plusieurs chevaliers francs, dont le fameux Renaud de Châtillon, qui est vraiment une figure légendaire de l'histoire des croisades, une sorte de pirate incroyable, qui est parti à un moment donné à la Mecque pour essayer de piller la Mecque, un truc incroyable. Et il s'approche de. Donne à boire à ses prisonniers. Donc il donne à boire au roi des Francs, etc. Et à un moment donné, le roi des Francs tend sa coupe d'eau à Renaud de Châtillon. Oh, c'est pas toi, Justine, je te rassure. Il lui donne à boire sa coupe d'eau à Renaud de Châtillon. Et Saladin saisit son sabre et en frappe Renaud de Châtillon, dont le corps tombe à terre et qui, à ce moment-là, est exécuté, décapité par les mamelouks de Saladin. Et Saladin, le roi des Francs, est un peu choqué. Et Saladin dit, ce n'est pas moi qui ai donné à boire à cet homme, c'est ce roi, et moi, ce qui me concerne, c'est un pillard, j'avais promis de le tuer, ce n'est pas moi qui te frappe, c'est Allah à travers moi. Enfin, il y a tout ce genre de choses qui sont, je trouve, absolument fascinantes, qui font de Saladin un personnage qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer, j'ai envie de vous dire.
Bien, écoutez, on arrive un peu bientôt à la conclusion de notre table ronde. Peut-être que le plus simple, avant de vous poser encore une fois des questions, c'est de vous donner la parole une dernière fois. par rapport à plutôt cette époque, puisque vous, c'est pas directement, je pense à votre premier roman, Chien du Haut, chez Nemos, Justine, c'est plutôt, vous l'avez dit, des petites gens, c'est plutôt, votre personnage, Chien du Haut, c'est une femme mercenaire, hein, voilà, pour survivre, elle tue, c'est son boulot, etc. Pourquoi vous êtes passionné par cette période? Qu'est-ce qui vous fascine dans cette période?
Je pense que c'est une période qui est crue par elle-même et c'est une période où l'être humain est beaucoup plus cru aussi. Il y a une très grande violence et je ne pense pas qu'elle soit facile à l'époque. Elle n'est pas sublimée, elle n'est pas esthétisée comme maintenant. C'est juste de la brutalité normale, aussi horrible que ça puisse paraître. Le monde était sans doute beaucoup plus tranché que maintenant.
En tout cas dans certains pays.
Oui, évidemment. Je parle de notre bassin culturel. Oui.
Paul Dandin, pourquoi cette fascination? Pourquoi avoir articulé votre roman en trois périodes autour quand même des croisades? Qu'est-ce qui vous fascine dans cette période historique?
Les croisades pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, c'est-à-dire le personnage de Bouillon que j'imagine rencontrant, et c'est d'ailleurs celui qui fait le récit hein, de la première croisade dans le roman, rencontrant un moine qui est un moine byzantin qui vient du mont Athos et se liant d'amitié avec ce moine dont il va admirer les œuvres, puisque en fait quand il se rencontre, eh bien, ce moine qui emmène des icônes pour les offrir au basileu à Constantinople, eh bien, se fait attaquer par des pillards francs, il est sauvé par Godefroy de Bouillon, et une amitié va naître entre ces deux hommes, et c'est au fond ce moine Aristophane qui va raconter l'histoire de Bouillon et de cette première croisade. Donc c'est un des personnages de cette histoire, un personnage fictif, mais on ne sait jamais, puisque quelquefois on se rend compte que dans ces histoires-là, eh bien, la réalité va au-delà de la fiction. Et ça, encore une fois, je crois que c'est le petit miracle quand on écrit, c'est d'imaginer des histoires et puis de se rendre compte parfois que, eh bien, effectivement, elles sont vraies, ou en tout cas, elles ne sont pas loin de la vérité.
En conclusion, David Camus, toujours sur qu'est-ce qui vous a vraiment fasciné.
Mais ce qui m'a fasciné, c'est un peu ce que disait Justine là, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une situation souvent où c'est la crudité des éclairages, j'ai envie de dire. Ça renforce les effets, ça renforce également les effets dramatiques du récit, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on peut très facilement basculer vers la mort ou vers la vie. Tout est tendu. Et ça, c'est quelque chose qui était dont j'avais vraiment envie et besoin pour moi. Premier roman, je voulais qu'il y ait une tension comme ça permanente dans le livre, que ce soit dur. Et les personnages sont en situation de guerre. C'est-à-dire que le roman commence, c'est la défaite de Hattin, c'est un drame pour les chrétiens, et le roman se termine, je suis désolé de vous le dire, mais Jérusalem retombe aux mains de Saladin. Et entre les deux, on a la quête désespérée de mon personnage principal, et j'ai envie de vous dire, ce n'est pas parce qu'une quête est désespérée qu'il ne faut pas la mener. Au contraire.
C'est une jolie conclusion. Et en tout cas, je vous renvoie au livre de nos invités, Chien du Haume, un roman moyenâgeux absolument remarquable, deux prix littéraires, Justine Niaugret aux éditions Mnemos, Jean-Sébastien Blanc, qui est obligé de nous quitter tout à l'heure, La légende du roi d'Orient aux éditions Elzaban, ça c'est pour la jeunesse, le 16e année du serpent, Paul Dodin Clanvaux, et puis Cheval Vertu, édition, et par ailleurs, chez Robert Laffont et réédité chez Pocket, Le roman de la Croix en trois volumes de David Camus. Je n'allais pas dire vive les croisades, mais en tout cas plongez-vous. C'est une époque passionnante, à défaut d'être une belle époque. Merci.
Merci.
Merci. Merci.